Scientific Skepticism, the podcast for science and reason. The only podcast in Japan in French.
Okay, that's good.
Épisode 24 pour le samedi 15 novembre 2009. Je vais être rejoint dans le studio du balado Scepticisme Scientifique par Francine Cordier et Patrice Seret. Et nous allons discuter de l'agroglyphe, ou si vous préférez, pour les anglophiles, du crop circle de Borshade, dit aussi agroglyphe dérange. Ils viennent en effet de publier un article consacré à cet agroglyphe dans le magazine Science et Inexpliqué, et donc je leur ai proposé de venir nous en parler. Avant de passer à l'interview, j'aimerais vous dire un mot à propos de iTunes. Vous savez que le balado est disponible sur iTunes. Et si vous utilisez ce programme pour télécharger le balado sur votre iPod, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller sur iTunes et d'écrire, de mettre une note au balado et d'écrire un commentaire où vous dites ce que vous pensez du programme. En effet, ces notes et ces commentaires sur iTunes aident vraiment à faire connaître à d'autres auditeurs potentiels l'émission. Donc oui, si vous avez le temps, s'il vous plaît, prenez ces 5 minutes, allez sur iTunes, mettez une note, écrivez un commentaire. Merci d'avance.
Au départ, nous avons écrit l'article plutôt pour mettre en ligne sur Internet. Et puis, ça a intéressé pas mal de gens, et Science et Inexpliqué notamment, qui nous a demandé donc la permission de reprendre cet article et de le faire paraître, ce qui a été le cas puisque c'est paru dans le numéro 12.
Donc auparavant, il était déjà sur le site du CNEGU, mais...
Non, on vient seulement de le mettre, là.
Ah oui, d'accord.
Par correction pour Science et Inexpliqué, on a mis en ligne l'article après que Science et Inexpliqué ait sorti son numéro 12.
Donc c'est le numéro 12, c'est le numéro de ce mois-ci.
Tout à fait. C'est le numéro où il y a donc un article sur la franc-maçonnerie. Le 5 de Gizet, les crop circles, donc c'est nous, et puis enlèvement extraterrestre avec l'avis d'un psychologue clinicien, Renaud Évrard.
Comment s'appelle donc ce crop circle?
Alors en fait, il a eu plusieurs noms. Il a eu le nom de crop circle dérange. Aussitôt, donc certains partisans d'hypothèses exotiques de la création des crop circles se sont emparés de ce nom pour dire le crop circle dérange, le crop circle qui dérange. Cet humour nous a effectivement fait rire d'ailleurs, parce qu'en plus le crop circle ne se trouvait pas sur Érange, mais plus proche de la commune de Brouvillé, en Moselle.
Et donc il est apparu au mois de juin.
En fait, on en a eu connaissance très tardivement. On en a eu connaissance au mois de juillet. Alors qu'en fait, quand nous nous sommes rendus sur place, nous nous sommes rendus compte que le crop circle avait été confectionné depuis déjà plusieurs semaines. Environ 3 ou 4 semaines au minimum. On l'a constaté tout simplement parce que les tramlines qui traversent le crop circle avaient recueilli les graines des épis qui avaient été mis à terre. Et le blé avait commencé à repousser, c'était un jeune blé, alors que tout le reste du champ était au stade de la récolte. On l'a constaté également par le fait que les épis qui avaient été couchés lors de la confection du crop circle, étaient ceux qui étaient en contact direct avec la terre, étaient noircis, moisis, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà pris beaucoup d'eau, et effectivement, à cette période de l'année, il y avait eu pas mal de pluie. Donc la nature avait fait son œuvre, donc on pouvait constater effectivement que le crop circle avait plusieurs semaines.
Donc en fait, le début de la saison des crops et des agroglyphes, c'est en mois de juin. Donc ils auraient fait le crop et puis après, il n'aurait pas été découvert d'emblée, il serait passé inaperçu pendant un certain temps.
Oui, c'est une chose qui nous a surpris au départ, parce que un des principes VECA, c'est le principe de visibilité. Or, effectivement, quand nous nous sommes rendus sur place, nous avons eu un petit peu de difficulté à localiser visuellement le crop circle, même si on avait les données GPS. On s'est aperçu sur place qu'il était très peu visible. Mais il faut savoir quand même que ce principe de visibilité est quand même respecté, puisque tout proche figure une base de l'armée avec des hélicoptères. Donc effectivement, le crop circle était quand même fait pour être vu, mais cette fois de vue aérienne, même s'il n'était pas fait pour être vu depuis la route ou les environs.
Au niveau de l'accès, il était quand même assez facile ou il
était extrêmement facile, extrêmement facile. Il y a une route, un chemin de terre qui borde le champ, et depuis le chemin de terre, donc il y avait un sentier qui avait déjà été tracé quand nous sommes arrivés, certainement dû à différents visiteurs qui sont allés sur la figure, et vraiment très très facile d'accès. Ça, c'est aussi un des principes de VECA, hein, c'est l'accessibilité vraiment facile. Et là, ça le respectait vraiment en plein.
Pour cette question de la visibilité, ils auraient fait l'agroglyphe en juin et puis ils seraient passés inaperçus. Et puis finalement, quelqu'un de la base aérienne l'aurait vu d'un avion et c'est comme ça qu'on l'aurait découvert.
On a une anecdote assez amusante d'ailleurs à ce sujet. C'est que les gens de la base aérienne ont vu le crop circle. Mais ils n'ont pas eu l'autorisation de le photographier ou d'en parler. En effet, bon, ce n'est pas le but de l'armée, donc de photographier des agroglyphes, hein, ou des jolis dessins dans les blés. Et puis, je pense que de la part de l'armée aussi, c'est une retenue tout à fait classique, normale, de ne pas donner de publicité à ce genre de choses.
Ah ouais, donc ça explique bien pourquoi il serait passé inaperçu pendant un certain temps. Les militaires l'auraient vu depuis le départ, mais ne l'auraient juste pas dit.
Oui, donc cette anecdote amusante, c'est que nous avons par hasard rencontré le père d'un des pilotes qui avait vu depuis un certain temps donc cette figure. Et son fils lui a expliqué qu'il n'avait pas eu l'autorisation de le photographier. Alors donc pour lui, c'était une preuve que c'était quelque chose d'extraordinaire et de mystérieux, et qu'on empêchait son fils de parler.
Ah ouais.
Mais ce récit initial qu'on a recueilli 15 jours après, c'était à l'occasion du Festival de l'étrange à Fontenoy-la-Joutte, est devenu un petit peu plus complexe parce que nous avons à nouveau rencontré ce monsieur lors d'un repas ufologique, et là le discours devient beaucoup plus mystérieux, c'est-à-dire que je sais qu'on nous cache des choses, mon fils a vu quelque chose et on lui interdit de parler. Point. Donc à partir de là, on sent bien qu'il y a une dérive. Le mystérieux devient de plus en plus mystérieux. En fait, il s'agit tout bêtement, parce que nous l'avons reconnu, si lui ne nous a pas reconnu, nous avons reconnu ce monsieur et effectivement, il n'y a absolument rien d'étrange dans l'agroglyphe de Shield, puisque c'est l'autre nom aussi de ce crop circle. Et puisque nous avons pu démontrer très facilement, avec les trous de piquet qui se plaçaient au milieu des cercles, la facilité avec laquelle le crop circle avait été réalisé, puisque ce sont une série de cercles, c'est une série de cercles en enfilade, l'accessibilité, enfin, tout y est pour une fabrication humaine très simple.
Oui, en fait, la question la plus évidente, c'est la forme. À quoi il ressemble ce crop? Il est fort complexe ou il est simple?
Non, c'est un crop circle qui paraît complexe vu de loin, vu du ciel. En revanche, c'est un crop circle très simple puisqu'il n'est fait que de cercles et même pas de droites d'ailleurs. Ce sont uniquement des cercles en enfilade. Et ces cercles en enfilade ne sont pas parfaits, loin de là, puisque les auteurs de la figure ont été gênés par les tramlines et certains des cercles sont ovalisés ou bien d'autres ont carrément une partie qui longe la tramline. Donc ce n'est plus du tout du cercle, mais vraiment on voit très bien que ce sont des gens qui ont été gênés par les tramlines des tracteurs.
Peut-être pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais expliquer en deux mots pourquoi il est plus simple de faire des cercles que de faire des lignes ou des carrés dans les champs?
Alors les cercles, c'est très simple, il suffit à l'auteur de mettre un piquet à un endroit, peu importe, de tirer une grande ficelle et puis ensuite de se servir de cette ficelle comme d'un compas. Donc c'est tout simple, très facile. Les lignes droites, on en trouve beaucoup aussi dans les crop circles, et c'est un des principes des crop circles, c'est qu'ils sont pratiquement tous faits de cercles, d'arcs de cercles et de droites. Imaginons, je dis bien, que des extraterrestres ou que Mère Gaïa, comme certains veulent le dire, s'amusent à faire des dessins dans les champs. J'imagine qu'il pourrait y avoir des sinusoïdes ou des choses de ce type-là. Mais non, on n'a toujours que des droites et des arcs de cercle ou des cercles.
Oui, Jean-Michel, c'est tout simplement la base de la géométrie. Donc, employant la géométrie pour faire des figures dans les cercles, il n'y a rien de plus facile, tout simplement.
Au niveau des éléments de Reveca, on a parlé de la visibilité, de l'accessibilité. Est-ce qu'il y avait d'autres choses?
Oui, il y a plusieurs principes, mais nous n'avons même pas eu besoin de vérifier les autres principes VK à partir du moment où nous avons trouvé l'un des plus flagrants, c'est-à-dire le sentier caché. Alors, le sentier caché, c'est tout simple. Quand quelqu'un arrive dans un champ, qu'il place son piquet au centre, il a déjà tracé un sentier. Mais ce sentier, il est pratiquement invisible puisque comme il va se servir de la ficelle comme d'un compas, il va recouvrir en marchant, en cercle, le sentier initial. Il faut donc chercher ce sentier pour trouver l'endroit d'accès. C'est ce que nous avons fait et nous avons immédiatement trouvé dans les cercles de cette figure les passages initiaux des concepteurs de cet agroglyphe. Je vous repasse Patrice d'ailleurs qui va en reparler un peu.
Oui, puisque tu parles des principes VK, on peut dire que par exemple, en regardant la figure, on s'aperçoit immédiatement que le principe 2 du rapport VK, c'est-à-dire le principe d'économie ou dit du moindre effort, consiste en la réalisation que ce crop circle a été fait en enfilade, donc avec un accès aisé en voiture. Le fait de se limiter seulement à de simples cercles procède du souci ou de la nécessité de faire simple et ou vite. Donc ce principe est validé déjà. Un autre principe, toujours en exemple, le principe 7 dit d'imitation, en regardant la figure, il est évident que le crop circle de Brouvillé révèle une pâle imitation de ce qui s'est déjà fait ailleurs. Donc en peu de temps, en l'histoire de 10 minutes, on s'est rendu compte que sur ce crop circle de Brouvillé, déjà 5 principes VK étaient validés. Donc c'était très facile. Par contre, ce qui est intéressant dans ce crop circle-là, c'est le sentiment qu'on en retire. Ce sentiment, c'est qu'à l'examen de ces données, on constate un manque flagrant de méprise pour le maniement, par exemple, des bases, c'est-à-dire un piquet ficelle ou des planches rouleaux, qu'importe. C'est une carence qu'on avait déjà constatée lors du crop circle DES en 2007, mais celui-ci est encore beaucoup plus flagrant dans le sens où, manifestement, malgré le temps passé, ce crop circle a été fait à la va-vite. Ce qui nous a fait penser un peu du fait qu'il était très peu visible du chemin et ou de la route qui se situe, de la route nationale qui se situe un peu plus haut, il est très très peu visible. On s'est demandé si les auteurs ne faisaient pas ici un essai ou un genre de concours entre jeunes pour dire, vous voyez, c'est possible, ça peut être fait, mais on va pas trop en parler, c'est entre nous. Voilà, alors on s'est demandé si c'était pas un essai, finalement.
Ce qui nous a beaucoup amusé également, c'est de voir les commentaires qui ont été faits à propos de ce crop circle, puisque certains partisans d'hypothèses exotiques, munis de baguettes de sourciers ou d'autres objets aussi hétéroclites, ressentaient des choses, n'est-ce pas ? Ou avaient trouvé des mouches mortes. Nous avons bien cherché les mouches, mais on n'en a pas trouvé des mouches mortes collées, et pourtant on a pris du temps.
C'est des trucs habituels, mais pour cette histoire de sensation, ça ne prouve strictement rien, puisque de toute façon, c'est la suggestion, ou ils ont subjectivement ce genre d'impression, parce que ils sont peut-être enclins à ce genre d'expérience.
À propos des sensations qui sont ressenties par les partisans d'apparition et de conception exotique des crop circles, il était assez amusant de constater que certains ressentent un bien-être infini, ou un grand sentiment d'amour vis-à-vis de tout ce qui l'entoure, ou mais d'autres, par contre, ont mal à la tête. C'est assez contradictoire.
Il y a aussi dans la lunatique fringe, la frange lunatique, ils utilisent des sourciers, des voyants pour enquêter sur les crops. C'est vrai que c'est des choses qu'on lit beaucoup, mais enfin, c'est tellement peu sérieux.
C'est peu sérieux, ça c'est certain, je suis bien d'accord. En revanche, il y a une chose importante, c'est que il y a des personnes qui sont plus ou moins fragiles, plus ou moins naïves, et qui malheureusement adoptent les thèses farfelues de ces personnes. On va prendre l'exemple de la géométrie, hein, des crop circles. À partir du moment où c'est fait avec des droites et des cercles, on retrouve des constantes. Et pour les partisans de la création exotique des crop circles, ces constantes sont une preuve que c'est une nature exotique. Alors qu'il s'agit tout simplement de géométrie, des choses qu'on apprend en France au cours élémentaire. Et c'est absolument incroyable de constater que ces personnes plongent dans ces délires de façon, mais vraiment très très convaincue.
Oui, c'est flagrant dans le sens où ça dénote un manque de culture et c'est assez dommageable pour l'étude du phénomène que des gens de cet acabit s'emparent des principes même de la géométrie ou des mathématiques pour essayer d'en faire quelque chose de mystérieux et que surtout ça influence des gens qui sont peu au fait de la chose ou qui n'ont pas eu la chance de faire des études, hein, parce que c'est pas une critique négative que je fais là. Mais s'empare de ces gens-là qui sont faibles au niveau de la culture générale et ça peut aller très 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 très, très loin. Ceci dit, je voudrais revenir un court instant sur le fait que certaines personnes disent avoir trouvé des insectes morts dans les crop circles, puisque ça a été le cas soi-disant sur le crop circle de Beauvillet. Quelqu'un a eu la chance, le bol, hein, qu'importe, de trouver une mouche morte. Et à l'examen de la simple photo, on s'aperçoit qu'en réalité, il s'agit de ce qu'on appelle, et je vais essayer de le citer comme il faut, de l'entomotrora muschea. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un champignon qui s'attaque à la mouche domestique, tout simplement. Il s'agit d'un mycélium, en quelque part. Ça condamne la mouche en quelques jours seulement à une mort promise, et après la mort de l'insecte, le responsable s'extériorise en élaborant un halo de mycélium externe autour du cadavre. Ce cadavre de mouche donc se retrouve immobilisé, voire collé sur la tige d'orge ou de blé, et il n'y a rien de bien bien mystérieux à ça. On appelle ça vulgairement de la muscardine, et bon, c'est donc l'attaque d'un insecte par des champignons, tout simplement.
Oui, avant d'envisager les hypothèses exotiques, il y a des moyens prosaïques d'expliquer des insectes morts dans un champ de main.
Oui, comme d'habitude d'ailleurs pour ce crop circle, comme pour les autres crop circles, on a des outils. On a un outil qui est fantastique, c'est les sept principes du rapport Weka, hein, enfin les principes du rapport Weka, et je ne comprends pas que les gens qui visitent les crop circles, étant donné que c'est simple à faire, que c'est simple à contrôler, ne le font pas. Ça, j'ai beaucoup de mal à admettre que les personnes y vont sans utiliser les principes. Après seulement, s'ils ne trouvent pas les principes du rapport Weka, effectivement, il peut y avoir quelque chose d'intéressant à faire. Mais à ce moment-là, il faut commencer par le début.
Il faut surtout utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition, et Dieu sait qu'on en a. Et avant de dire, bon ben voilà, il y a quelque chose d'exotique là-dedans. Je ne dis pas qu'un jour il n'y aura pas quelque chose d'exotique, ça on n'en sait rien, on ne peut pas le présager. Mais à l'heure actuelle, on a des milliers d'outils à notre disposition, autant les mettre en application avant de crier au mystère.
Au niveau des gens qui exploitent le mystère, il y avait, quand moi j'avais été visiter un cercle en Belgique, il y a les Raéliens qui sont souvent présents pour distribuer des tracts.
Effectivement, les Raéliens récupèrent les crop circles pour apporter des éléments à leur mouvement. Mais il y a aussi un business très important autour des crop circles, vente de livres notamment. Vente de produits dérivés, hein, puisqu'on trouve des porte-clés, des cartes postales, des jeux de cartes, des t-shirts. C'est un bazar monumental. Hein.
Même si on voit ça sous l'angle d'une forme artistique, un peu comme les tags en ville, ou pourquoi pas, enfin je veux dire, des livres qui présentent des crops bien réalisés, même moi, je trouve ça pour avoir.
Tout à fait. C'est une forme d'art. Moi, je le prends comme ça. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut savoir qu'en Angleterre, depuis quelque temps, il y a même des crop circle tours qui s'organisent. On peut partir de France et en payant une certaine somme, on a l'hôtel, on a tout ce qu'on veut, et on nous emmène visiter les crop circles. Donc tout est bon. Hein. Bon, si c'est pris comme étant de l'art et que on n'essaye pas de vendre du mystère pour du mystère, bon, pourquoi pas, c'est un tourisme comme un autre finalement.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire à propos du crop ou
Une toute petite déception de ma part, oui, parce que j'avais beaucoup aimé le folklore qu'il y avait eu autour du précédent crop circle en Moselle l'année dernière. C'était assez comique, hein, puisque on trouvait des gens qui priaient, on trouvait des gens qui avaient leur baguette de sourcier, etc. Des gens habillés ou costumés, je dirais plutôt, d'une façon assez étrange. Enfin, c'était des gens qui se tenaient par la main, des gens qui s'allongeaient par terre dans les épis. C'est assez intéressant à voir quand même. Mais là, quand nous y sommes allés, Patrice et moi, il n'y avait absolument personne. Il n'y avait que nous deux. Un petit peu de déception quand même, parce que quitte à faire un grand voyage de plusieurs heures et de ne pas trouver ce folklore, c'était un petit peu décevant, mais le reste est tellement, tellement gratifiant quand on s'aperçoit très vite que le crop circle est fabriqué de façon humaine, que ça a largement compensé cette petite déception.
Ouais. Il faut dire à décharge que lors du crop circle de S, puisque c'est celui à qu'on parle, il y avait certains individus, certains aigrefins qui étaient déjà sur place et donc qui se prêtaient à ce genre de choses. Et quand nous on s'est pointé sur le Crop Circle d'Ess, il y avait Gilles Munch, moi et donc Francine, on a été assaillis par ces gens, entre guillemets, hein, quand je dis assaillis, nous demandant des explications parce qu'on avait un tas de matériel et on est passé, c'est assez extraordinaire, on est passé pour des scientifiques spécialistes mondiaux, je dis bien, des Crop Circle. La transformation s'est vite fait, c'était assez rigolo. Mais il y a un effet pervers à ça, c'est que sur le crop circle d'Ess, il y avait donc déjà des gens soi-disant spécialistes de crop circle qui démontraient qu'ils étaient faits par Mère Gaïa ou par des extraterrestres, avec les démonstrations habituelles, les rhétoriques habituelles qu'on va passer, c'est pas la peine d'y revenir. On a publié, nous, donc nos résultats sur Ess après. Et bien évidemment, l'excuse de la part de ces gens-là, c'était de dire « Oui, mais S a été transformé en faux ensuite, puisque nous, on était avant vous, on peut vous garantir que c'était un vrai. » Or, pour Brouvillet, oui, c'est l'excuse bien facile. Hein. Or, à Brouvillet, nous étions les premiers. Hein, on a réagi très très vite, 48 heures après la découverte déclarée. Donc, on a réagi très vite. Ils ne peuvent plus, aujourd'hui, nous accuser d'avoir modifié quoi que ce soit. Tu comprends ?
Ouais,
ce qui est amusant, c'est que le langage aujourd'hui sur le crop circle de Brouvillet est totalement différent, puisque ceux qui disaient que S avait été transformé en faux et que c'était donc un vrai en s'en donnait à cœur joie, et aujourd'hui sur celui de Brouvillet, comme on était en premier, ils disent oui, c'est peut-être un faux. C'est assez curieux quand même, alors que c'est les mêmes constats.
Oui, enfin l'argument est assez ridicule. Pourquoi est-ce que vous auriez transformé le crop circle en faux?
L'argument est fallacieux. L'argument est fallacieux, mais c'était le du type, ben des gens sont venus après nous pour faire les trous, par exemple des piquets. Par exemple.
Ah ouais, d'accord.
Ça n'empêche que ce soit à Brouvillet ou à S, pour ne retenir que ces deux-là, on pourrait parler de Bourges ou de Marly, qu'importe, il y a bel et bien le sentier caché. Et ça, par contre, ça ne gêne pas qu'il y ait un sentier caché. C'est assez curieux.
En fait, il y a une chose très importante aussi qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de vrai crop et de faux crop. Vrai et faux, c'est un langage un petit peu anormal, parce qu'en fait, ils sont tous vrais, puisqu'ils sont constatables. Hein. Ils sont constatables puisqu'ils ont été créés. Ils sont tous vrais dans ce sens-là. Mais quand les gens utilisent vrai, ça veut dire que c'est fait par quelque chose de mystérieux, et faux, ce serait fait par les humains. En fait, jusqu'à présent, on a toujours constaté que c'était toujours des vrais faits par les humains.
Oui, oui, très bien dit.
C'est manier le langage, c'est tout simplement manier le langage pour faire dire ce qu'on veut aux mots, tout simplement.
Dans les domaines qui nous préoccupent, on a vraiment souvent des problèmes langagiers de ce type, hein, une rhétorique qui est... Il faudrait déjà prouver qu'il y ait des, entre guillemets, vrais crops versus des faux crops avant de pouvoir utiliser ce vocabulaire, mais ils n'ont pas de preuve que c'est le cas, mais ils l'utilisent quand même, quoi.
Ce qui n'empêche qui déclare à qui veut l'entendre ou qu'ils écrivent à qui veut le lire, que des preuves ils en ont, notamment des analyses de terre. Et ce qui est curieux, c'est quand lorsqu'on leur demande de voir ces analyses, on ne les a jamais. Hein, pour S, ça fait 2 ans que le crop circle a été fait, on attend toujours les analyses de terre. Pour Erange, ça fait plusieurs mois que ça a été fait, on attend l'analyse de terre. Et l'argument, c'est de dire c'est long. Or, pour une analyse de serre, il faut, à tout casser, il faut 2 jours, il faut 48 heures. C'est très rapide à faire.
Si, en me faisant un peu l'avocat du diable, mettons que je sois un sceptique et que je sois convaincu qu'il n'y a pas d'agroglyphe qui soit mystérieux, en tout cas exotique, est-ce que ça vaut la peine d'aller visiter un agroglyphe ou bien est-ce que ce serait juste une perte de temps? Est-ce que vous conseilleriez aux sceptiques d'aller visiter des agroglyphes? Parce que là, vous avez fait une longue distance quand même, hein. Vous êtes allé plusieurs heures de route.
Tout à fait. Mais alors là, personnellement, je dis oui. Je dis oui, simplement parce que il est intéressant de constater la figure, de voir par quel bout elle a été commencée, comment elle a été réalisée. C'est très intéressant. Rien que pour ça, ça vaut le coup. De faire cette petite enquête, de trouver les indices qui montrent, qui prouvent la faisabilité et que ça a été fait de façon humaine, c'est super intéressant.
Et puis multiplier les exemples comme S, Marly, Bourges ou aujourd'hui Bouvillier, ça, en publiant quelque chose en ligne sur Internet que tout le monde peut lire, que tout le monde peut constater et vérifier. Ça permet peut-être de limiter certaines dérives. C'est du moins l'espoir qu'on a. Et à partir du moment où il y a 1-2 personnes qui arrivent à comprendre, c'est toujours ça de prix. Donc oui, c'est nécessaire, absolument. Et on y retournera.
Je voulais profiter pour terminer, comme j'ai Francine avec moi dans le studio, sur Ufofu, je change de sujet là, mais sur Ufofu, hein, Ufofu. Il y a 2 semaines, je crois, la fameuse question du fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en ufologie. Et après, il y a eu toute une série de commentaires sur la gente féminine, pas très charmant. Est-ce que tu voudrais commenter cette question ufofouienne?
Oui, c'est le langage de la lunatique frange. C'est à peu près du même ordre d'idée de ce que disent la lunatique frange à propos du sceptique. Et là, c'est la lunatique frange qui parle des femmes. Donc ça ne vaut rien, ça n'apporte rien. On voit quand même le machisme, même s'ils s'en défendent, elles disent que c'est du deuxième degré, on voit quand même un machisme latent, mais évident. C'est même frappant. Ils oublient de parler de Francine Fouéré, par exemple, qui est une grande pionnière en France. Et tu as toi-même cité un certain nombre de femmes. Mais là, à cette citation que tu as fait, je crois qu'il y en a un qui a répondu et on s'en serait bien passé. C'est pour montrer à quel point ça vole bas.
Moi, j'ajouterais tout simplement que ça dénote aussi un certain état d'esprit latent qui reste. C'est même gens qui disent qu'il faut respecter les témoins et qui ne respectent pas les femmes ufologues, quel que soit leur bord.
Tu avais, il y a un certain nombre d'années déjà, réalisé une petite enquête, à poser des questions à des femmes impliquées en ufologie. Quelles avaient été un peu tes conclusions à ce propos-là, Francine?
Alors, j'avais à peu près fait les mêmes constats que maintenant, c'est-à-dire que le monde de l'ufologie est un monde essentiellement masculin, et dans le monde masculin, il y a beaucoup d'intolérance. Il y a beaucoup d'intolérance. Dans le monde de l'ufologie, hein, je parle, hein, dans ce monde masculin de l'ufologie, il y a beaucoup d'intolérance. On voit l'intolérance par rapport aux sceptiques, on voit l'intolérance par rapport aux femmes. Donc, il n'y a rien de changé sous le soleil.
Oui, je suis en train de regarder pour citer quelques remarques qui avaient été faites. Il y avait, par exemple, les femmes sont plus sentimentales, lovely tender, lovely sweet, ou pour les femmes qui dit ovni dit soucoupe, donc mécanique, propulsion, c'est pour les mecs.
C'est ça, mais alors, moi, ce que j'aime beaucoup, quand même, c'est que ces personnes-là, hein, le jour où elles auront, comme moi, traversé les barbelés, marché dans la boue, recherché des traces dans dans diverses substances, eh bien, on en reparlera, hein. Mais pour l'instant, ce sont des gens qui sont derrière leur ordinateur, et pour la plupart, hein, et qui font pas grand chose, hein. J'en parle aussi du fait qu'il y a eu dernièrement sur Ufofu, un thème sur le sceau, hein, la sauvegarde et conservation des archives ufologiques. Alors, sur Ufofu, chaque fois qu'un fil est lancé, il y a énormément de réponses. Là, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y en a une. C'est-à-dire qu'en fait, le sceau, qu'est-ce que demande le sceau? Il ne demande pas d'argent, il ne demande pas de débattre des reptiliens ou bien de la psychologie des extraterrestres. Il demande simplement que les gens veuillent bien travailler. Or, à partir de là, un seul commentaire. Et moi, je n'en ferai pas plus.
J'ai pas mal d'interviews vraiment intéressantes à venir. Par exemple, Old Cola va revenir discuter avec moi et me poser des questions à propos du scepticisme scientifique. Et puis, je pense avoir le méméticien Pascal Jouxtel dans un futur épisode qui viendra nous parler de son livre « Comment les systèmes pondent une introduction à la mémétique ». Et j'ai d'autres contacts encore, donc restez branchés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. C'était Jean-Michel Abrassard. Sceptiquement. The scientist, pocket protector, and microscope. The scientist, corrective eyewear and lab coat. The scientist, lab silent at 1 a.m. The scientist, she's worked a long night once again. Spent out.